Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous la suite, en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu et Loïc Lourmière, le chef du Bel Ami à Étretat, avec du thon et du bœuf mélangé.
Dans l'esprit d'un vitello donato, d'habitude c'est du veau et du thon. Là, on a fait du bœuf et du thon. Ça va être très, très bon.
Ça va être très bon. Rien d'autre à ajouter, chef ?
On va déguster tout à l'heure.
Exactement. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est un homme heureux parce qu'il ne se fait aucune illusion, n'attend aucune surprise de la vie, ne fait confiance à personne, surtout pas aux femmes. Un mari jaloux dont le monde s'effondre lorsque sa jeune épouse, malheureuse, profite d'un numéro de magie pour disparaître pour de bon. Et l'homme qui ne se fait pas d'illusion finit par s'en faire pour ne pas sombrer dans le désespoir.
Quan ja refermeré les cercueils, vous disparaîtrez. Veig que garrines de les tines ensaïmades de cavalls, peus suats.
Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme?
Qu'est-ce qui se passe?
Il est parti.
Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte.
Oh, les mains, que personne ne bouge au nom de la loi, ouvrez.
Il dit que ma femme est à l'intérieur.
Il s'est enfui.
Avec son amant.
Il est cocu.
Et vous trouvez un indice? Surtout, ne touchez à rien.
Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paye pour votre spectacle? Bravo!
Vive les artistes!
Librement adapté d'une pièce d'Eduardo De Filippo, La Grande Magie, réunie devant la caméra de Noémie Vlovski, Judith Chemla, Sergi Lopez, François Morel, Damien Bonnard, Rebecca Marder et Denis Podalides, qui est ce soir notre invité.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Cher Denis, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. C'est nous qui sommes heureux de parler de La Grande Magie, de ce rôle de Charles que vous aviez déjà campé à la Comédie-Française il y a une dizaine d'années.
2009.
Pierre était présent.
Ah oui.
Et on a gardé un grand, grand souvenir.
Ça a été une immense entrée d'Eduardo De Filippo, un super spectacle. Vous ne vous appeliez pas Charles, c'était Calogero dans le texte initial, et ça n'avait rien à voir avec le chanteur.
C'est un rôle et un texte qui interroge sur le besoin d'illusions et de rêves lorsque la réalité devient insupportable.
Ah oui, 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 c'est exactement ça. C'est un personnage qui choisit délibérément l'illusion la plus invraisemblable pour nier l'évidence, c'est que sa femme l'a quitté et sa femme est partie avec un autre. C'est un jaloux, maladif, et l'histoire, c'est le développement de cette illusion qui court sur 4 années.
On devient fou sans illusion et à la fois l'illusion rend fou. Quoi. C'est un équilibre qui est difficile à tenir.
Oui, c'est un jeu très séduisant parce que je pense en tant que spectateur, ce tour de passe-passe qui est vraiment un tour inventé. Là, c'est pas tout à fait comme dans la pièce, mais le magicien pris de court parce qu'il a fait disparaître la femme, mais au moment de la faire réapparaître, elle n'est pas là. Et donc, il attrape cette boîte, il lui donne dans les mains et lui dit, voilà, cette femme, votre femme est dans cette boîte. L'autre veut l'ouvrir et lui dit, attendez, si vous l'ouvrez, ça veut dire que vous ne croyez pas, vous n'avez pas confiance dans votre femme. Et à partir de cette petite phrase stupide, l'autre n'ouvre plus la boîte et rentre dans la folie.
Ce besoin de jeu et d'illusion, il vous constitue depuis la plus tendre enfance, que vous racontez notamment dans Célidant disparu, c'est un ouvrage qui est paru en octobre dernier, dans lequel d'ailleurs vous consacrez un chapitre au tournage du film. Oui. Noémie Vlovski, vous voyez écrire sans arrêt. Elle a compris plus tard, quand elle a reçu le livre, que vous écriviez sur le tournage du film. L'illusion, elle a commencé tôt dans votre vie. À 12-13 ans, vous vous êtes inventé un pays imaginaire qui s'appelle Pénère. Et ce pays a non seulement une capitale, mais aussi une langue, le pénérois.
Exactement. Vous voulez que je la parle?
Non, mais je vois à peu près. Hein. Par exemple, je sais comment on dit merci en pénérois.
Oui.
Icrème.
Ben voilà.
Expliquez-nous.
Il faudrait que les spectateurs en déduisent de Icrème. Je suis Eschius. Là, je pense comme les gens quand même devinent la règle. Eschius. Eschius, Sinet, c'est Diladop.
C'est à l'envers.
Ah oui.
Suov, c'était...
En gros, il suffit d'épeler les mots français à voilà. L'envers.
Ben, c'est très compliqué.
Bonjour, je me suis amusée, c'est compliqué, c'est Rougenob.
Rougenob, oui.
Rougenob, j'ai pas l'accent.
La chose Mais justement, j'ai dû inventer un accent parce que la langue est tellement laide. C'est très curieux, vous inversez une langue, ça donne la langue la plus atroce à entendre.
C'est dingue parce que vous avez longtemps cherché quelqu'un avec lequel dialoguer en pénérois.
Mon frère, notamment, mon frère aîné. Et puis, bon, bah, j'ai pas réussi à le convaincre. Et puis, quand, dès que je parlais cette foutue langue, c'était affreux à entendre.
Il a essayé d'apprendre puis, un peu ou pas du tout.
S'il a essayé d'apprendre, oui. Pas une seconde.
Ah oui,
pas une seconde. Il a refermé la porte de sa chambre. Ah oui,
il écoute. Oh non, il va encore me parler.
Il a à faire.
Mais j'ai découvert ça avec une grande joie. Alors, pardon de parler de moi. Parce que mon fils a inventé un pays imaginaire, lui aussi. C'était l'Alsace, avec des régions, il y avait une carte, des accès ou pas à la mer, un régime politique, une histoire dont il avait rédigé le traité. Je me dis deux choses. Un, s'il tourne en Denis Podalydès, ça me va. Deux, j'aimerais enregistrer votre conversation à tous les deux. 50% pénérois, 50% alsacien.
Alsacien, mais c'est beau ça. Et il y avait une langue.
Oui, il y avait une langue, l'alsacien, des capitales. Enfin, c'était extrêmement élaboré. Un peu comme en... Et il était plus jeune que vous.
Moi, j'étais petit quand même. Enfin, j'étais pas...
12-13 ans.
Moi, ça, oui, c'est ça à peu près.
Et c'est à l'époque aussi où vous rédigiez vous-même les critiques de vos propres spectacles.
Oui.
Élogieux, évidemment.
Ce que je ne peux plus faire.
Denis Podalydès, stupéfiant, qu'on espère revoir bientôt. C'est absolument génial. Parlez-nous aussi du double que vous vous êtes inventé, Sidney Chaston.
Qui était cette personne? Alors, c'était un mix de... Allez savoir pourquoi, de Sidney Poitier et de Charlton Heston.
Ah tiens, c'est bizarre, ça comme mélange.
C'est quand même très, très bizarre.
Et très opposé politiquement.
Ah, mais je connaissais à peu près rien d'eux, sinon je connaissais leur image dans les films, et j'aimais bien. Sidney Poitier était un acteur très aimé par ma mère. Eh bien, un film dont vous allez peut-être me rappeler le titre, Qui vient dîner ce soir,
chose comme ça.
Qui vient dîner, voilà. Et donc, je trouvais que c'était un acteur maïs. Et Charlton Heston, c'était le héros. C'était. Alors, je fais ce mixte et je me projetais dedans. En associant ces deux images, ça donnait moi. Voilà, d'un film qui s'appelait La Palme des Jeux Olympiques, dont j'avais fait la critique sur le modèle de la page dans Télérama.
Combien de thé?
Avec Robert. Alors, il n'y avait pas de thé, c'était un espèce d'œil à cette époque-là. C'était très vieux, ça. Hein.
Mais l'œil était heureux, évidemment.
Et avec des critiques quand même un peu mitigées. Mais on remarquait un jeune acteur, je ne me mettais pas
trop en avant.
C'est là où ça devient un chinois, parce que je me projetais à la fois dans Sidney Chaston, mais j'apparaissais en tant que Denis Podalydès. On va pas passer la soirée là-dessus, non, j'ai fait de la psychanalyse, vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai échappé à toutes ces schizophrénies.
Ce qu'on découvre en partie dans ce formidable ouvrage, Célidant, ouais, disparu. Bien. On met aussi pas mal de thé, enfin pas mal de C, c'est à vous, à cette grande magie, où il y a de la poésie, et puis il y a l'univers musical des années 20.
Feu Chatterton.
Enfin, c'est une merveille de film qui sort la semaine prochaine au cinéma. On va longuement parler de vous. Et faire deux, trois critiques, non pas mitigées, plutôt élogieuses. Mais là, tout de suite, c'est les infos express de C'est à vous.
Denis, petit, vous aviez peut-être un copain surdoué, assez agaçant, capable de résoudre un Rubik's Cube en quelques secondes. Alors, laissez-moi vous présenter Tyrone, le champion du monde qui résout ce casse-tête en 6 secondes. Voilà, c'est assez impressionnant.
Insupportable.
Et plutôt insupportable. Émilie a raison. Moi, à 6 secondes, je suis encore en train de vérifier s'il y a toutes les couleurs sur le Rubik's Cube. Dimanche, je tenais à Glasgow la plus grande compétition au monde de Rubik's Cube avec des centaines de fans pendant 3 jours non-stop pour résoudre le jeu le plus rapidement possible. Pendant le Covid, le jeu a séduit une nouvelle génération.
I can personally do it one-handed, but I'm trying to learn blindfolded, but it's really hard.
We always had a Rubik's Cube lying somewhere around the house, so at one point I was like, well, it'd be cool to solve one. So I looked up how to do it on the internet, and when I did, I also came across competitions. And basically ever since then, I've just been cubing, like, all day, every day. For me, it's all competitive.
Ça avait l'air de vous intriguer, Denis. Il espère passer sous la barre des 5 secondes.
Bah, moi, je, comme vous, j'ai eu un Rubik's Cube dans les mains, mais je l'ai abandonné très vite, peut-être avant les 6 secondes, d'ailleurs.
C'est ça la différence, c'est qu'ils y passent des heures et des heures par jour. Enfin, c'est une vie de fou aussi, pour les mecs qui font ça. Donc,
non, mais c'est des combinaisons par cœur, en réalité. C'est,
Faut consulter.
Je pense que ça... C'est un peu maladif.
Un peu de musique, un peu de danse et un peu de cinéma en une minute seulement.
Michael Jackson aura droit à son biopic, ça on le savait déjà, ça s'appellera Michael, c'est original. Et c'est un projet porté par Graham King, celui qui avait produit Bohemian Rhapsody, le biopic de Freddie Mercury. Ça promet pour la qualité. Mais l'info, c'est le casting du projet, ça se jouera en famille. C'est le neveu de Michael Jackson que vous voyez et que vous verrez jouer le rôle de son oncle, Jafar Jackson. Il a 26 ans, c'est le fils d'un des frères du roi de la pop. Il tenait la base des Jackson 5 dans les années 60. Jermaine Jackson, le quatrième enfant de la fratrie. On a retrouvé un extrait d'interview où le jeune Jafar Jackson parle de son oncle.
Well, when I first saw my father and uncles perform, it was the 30th anniversary of the Jacksons. They performed in New York, and that was the only time I got to see my uncle Michael perform. Just seeing the fans' reactions and everyone's, the energy, that really inspired me to want to be in the music.
Alors pour juger ensuite de la qualité de chanteur, de danseur, de comédien de Jafar Jackson, on va attendre le film. On n'a pas encore de date de sortie, mais je vous laisse déjà juger de la ressemblance. Une photo de Jafar Jackson avec une photo de son oncle, époque Thriller. Il y a quelque chose quand même, non?
Ah oui, oui, ouais, oui, clairement. Oui, oui.
C'est la famille en même temps. Mais...
Est-ce que vous connaissez l'expression « casser Internet » ?
Casser Internet ?
Oui, casser Internet. Parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à 14h45 exactement, quand est apparue cette photo sur le compte Instagram de Beyoncé. Trois mots, la Renaissance World Tour, façon pour la Queen, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'annoncer sa tournée mondiale cette année, avec trois dates en France d'ailleurs, à Paris, Lyon et Marseille, ce qui a donc cassé Internet. C'est-à-dire que ça a provoqué plein de réactions, qu'on ne parlait plus que de ça.
Ah non.
Et voici le genre de réaction.
On n'a parlé que de ça.
On vient d'avoir une annonce de malade. Depuis, je tachycarde. Mon cœur va lâcher, la Queen. La Queen !
Les gars, je suis en train de pleurer et de mourir. Beyoncé vient d'annoncer les dates pour le Renaissance Tour et elle passe pas une fois, elle passe pas deux fois, elle passe trois fois en France.
Ah ! Oh my God ! Si j'ai pas ma place !
Beyoncé, I am so broke. Cannot see you, girl. I have to see you.
Beyoncé wystąpi w Polsce i cenach, że będę musiał sprzedać cały dom. Beyoncé to Beyoncé. Są priorytety.
C'est fair. Voilà, ça change des critiques sur Télérama. C'est un autre genre de façon d'être fan. Je ne sais pas si vous êtes fan.
De Beyoncé, mais je ne serais même pas capable de reconnaître une chanson de Beyoncé.
Il faut choisir soit Beyoncé, soit le Rubik's Cube.
Je prends le Rubik's Cube.
C'est l'œil de...
Beyoncé, non, ça...
C'est l'heure de l'œil de Pierre.
Alors, en termes de renommée, je suis à l'opposé de Beyoncé et de Michael Jackson. Lui, il s'appelait Barrett Strong. Je pense que ni son nom, ni son visage ne vous disent grand-chose, a fortiori si vous avez moins de 30 ans, mais c'est vrai aussi pour pas mal de gens de ma génération et entre les deux. Barrett Strong est mort à 81 ans, il y a 3 jours. Pour faire simple, c'est l'un des hommes, un des 4 hommes, qui ont écrit l'essentiel des immenses tubes planétaires du fameux label de disques américain, la Tamla Motown. Le label est né à l'orée des années 60 à Détroit, qui était alors la capitale de l'automobile. Son fondateur, le tyrannique Berry Gordy Jr., lance ce qui deviendra pendant 20 ans la maison de disques à succès des artistes noirs américains. Gordy était avant tout un rude businessman. Et ça transpirait dans les paroles qu'il a écrites en 60 pour un jeune chanteur qu'il essayait de lancer, Barrett Strong. En gros, dit la chanson, je veux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, je veux du fric et du pognon. Littéralement dans le texte, ça dit, c'est pas l'amour qui va payer les factures, ce qui n'est pas. La version de Barrett Strong a eu pas mal de succès, mais plus encore celle des Beatles avec la voix de Lennon. Du coup, Barrett Strong s'est dit, c'est quand même avec les droits d'auteur que je vais gagner le plus de pognon. Il s'est donc associé avec un autre nom mythique de la Motown, Norman Whitfield. Dans l'écurie, il y avait déjà Holland et Dozier qui avaient écrit tous les tubes des Supremes. Comme un hommage et une découverte pour beaucoup, je vous propose d'écouter un des grands tubes de Barrett Strong et Whitfield. C'est à eux qu'on doit par exemple « Papa was a Rolling Stone ». Papa was a Rolling Stone. Comme tu Temptations.
Ouais, un peu quand même. Oui, quand même. C'était en 73, le grand tube des Temptations, une version de 12 minutes. Je suis sûr que vous avez dansé là-dessus. Il y avait une intro de 4 minutes, etc. Joué dans toutes les discothèques du monde où vous faisiez des ravages. Rien à voir avec le groupe anglais. Quand on dit « Le papa was a Rolling Stone », les paroles de Strong disent les mots d'une mère à son fils en lui apprenant la mort de son père qu'il a vu très rarement, et elle lui dit « Il était trop volage, c'était un Rolling Stone ». Autre succès dingue et politique pour Strong et Whitfield se crie. Voilà, ce cri, war, c'était la guerre ne sert à rien du tout, c'était contre la guerre du Vietnam et il y a eu plein de versions, dont celle de Springsteen lui-même. Enfin, je ne vous passe, on n'a pas le temps, que quelques mesures de ce qui est peut-être la plus grande chanson écrite par Strong et Whitfield, I Heard It Through the Grapevine. Et oui.
Génial!
Ce titre deviendra en 68 l'un des plus grands succès de Marvin Gaye, sa merveille de voix et son groove insensé. Il y aura une version de plus de 10 minutes aussi du Creedence Clearwater Revival. On compte à peu près 350 versions de cette chanson. Et ça a même été une pub mondiale, la chanson d'une pub mondiale pour les jeans 501 à l'époque. Comme quoi Strong avait raison, c'est quand même avec les droits d'auteur qu'il a pu confortablement jusqu'à l'âge de 81 ans. Tant mieux pour lui, il ne l'a pas volé.
Ce qui est bien avec l'œil de Pierre, c'est qu'on apprend des choses et que parfois on est un peu en discothèque.
Ah oui.
Ben voilà. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Émilie Mathieu, à demain. C'est l'heure du vu. Merci.
Ils étaient encore plus nombreux qu'il y a 10 jours à manifester contre la réforme des retraites. 1 272 000 selon la police, 2 800 000 selon la CGT. Et surtout beaucoup de monde dans les villes moyennes. Les syndicats fixent de nouveaux rendez-vous mardi 7 et samedi 11.
Aujourd'hui, il y avait du monde partout. À Nantes, à Rennes ou encore à Marseille. Sur le Vieux-Port, 40 000 personnes selon la police. C'est 14 000 de plus que la dernière fois.
C'est la première manifestation que je fais depuis que je travaille et j'ai 50 ans.
Dans les petites villes aussi, la mobilisation est en hausse. Exemple à Dole dans le Jura. Ils étaient 3 000 à la mi-janvier, 5 000 ce matin.
Je suis étudiant, ouais.
Je suis employé d'assurance.
Je travaille dans le social.
Je suis dans la culture.
Dans l'export.
Moi, je suis technicienne de prestation dans la sécurité sociale.
Je suis au ministère de la culture.
Je suis soignant. Moi, aujourd'hui, je restaure des vieilles motos.
Quelques 200 lycées ont été bloqués ce matin contre 150 la semaine dernière. Ici, petit rassemblement devant le lycée parisien Hélène Boucher où les forces de l'ordre sont intervenues de manière un peu musclée pour déloger les jeunes.
Je suis ravie que les jeunes se descendent maintenant dans la rue. Moi, à l'époque, je n'envisageais pas ce que c'était un calcul sur 25 ans au lieu de 10. Maintenant, si on m'en reparlait, je pense que je serais même prête à brûler des choses.
Quand on dit c'est une réforme juste, moi pas avoir compris, moi étant monsieur et madame tout le monde. Quand on dit c'est une réforme dont il faut que les acteurs soient responsables, moi pas avoir compris, parce que moi comprends pas.
On est très très mobilisés, la jeunesse est très informée, très au courant de ce qui est en train de se passer. Et on est tous unis, les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les lycéens, tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme est injuste, injustifiée et pour s'y opposer ensemble.
Besançon n'est pas la seule ville où les étudiants ont du mal à joindre les deux bouts. Selon l'association Linky, en France, 2 sur 3 sont en situation d'extrême précarité. Une fois que le logement et que toutes les charges sont payées, il leur reste moins de 50 euros pour vivre et se nourrir.
Je pense que c'est pour beaucoup plus large que les retraites. C'est qu'il y a un ras-le-bol dans les campagnes, on est laissé pour compte.
Si on est là, c'est pas que pour les retraites, en fait, c'est pour le système actuel qui ne va plus du tout.
La Fondation Abbé Pierre publie demain son rapport annuel sur l'état du mal-logement. Elle estime que plus de 14,5 millions de Français sont fragilisés par la crise du logement. Dans les zones rurales, les prix des locations se sont parfois envolés avec l'arrivée de familles qui fuyaient les métropoles pendant la crise du Covid.
La mobilisation est très forte dans les raffineries et les dépôts de carburant de Total Énergie. On compte entre 75 et 100% de grévistes. Ici à Fézin, dans le Rhône, aucune citerne ne sort de l'usine. Et un appel à la grève reconductible de 24 heures a été voté par les salariés.
Première étape,
s'il vous plaît,
d'un parcours parlementaire.
On ouvre les chakras et on se tait.
Agité. Début des discussions hier autour de la disparition progressive des régimes spéciaux, le ton est donné.
Vous choisissez ce moment pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le jus de 3 heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer.
Pénibilité, on l'entend partout dans le cortège. Cet homme travaille en extérieur sur les câblages électriques.
Vous voyez faire l'astreinte la nuit à 64 ans, qui vient vous dépanner, vous relevez en pleine nuit encore pour repartir. Mais ça, c'est plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui font qu'à 64 ans, la pénibilité du travail...
Il faut soigner les Français, il faut leur dire qu'on a de la tendresse pour eux, qu'on sait qu'ils travaillent dur, qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et donc que dans ce cadre-là, eh ben nous, on va les aider, on va trouver des améliorations dans leur existence pour qu'ils travaillent de manière avec un travail de plus de qualité. Voilà ce qu'il faut dire aux Français. Il faut les aimer, bon sang.
Pour un député, un seul mandat de 5 ans donne droit à une pension de 684 euros. Pour un sénateur, après un mandat de 6 ans, c'est 3 fois plus, 2190 euros.
C'est une exposition photo qui inquiète.
Bon, bah, quand ma femme a vu la photo, je peux vous avouer qu'elle a eu peur. Voilà. Ouais. À 64 ans, on verra comment que je serai.
À l'aide d'une application, toutes ces personnes accrochées à la grille du centre hospitalier ont été vieillies de 15 ans.
Et j'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher. Ne vous comportez pas comme à Margaret Thatcher.
Qu'est-ce que à Elisabeth Borne.
À Elisabeth Borne, ouais, non mais vous voyez un petit peu le lapsus. Je pense que, quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher.
Vous pouvez encore rester avec nous quelques minutes.
Après, il faut que j'aille à mon assemblée générale. Hein,
Pardonnez-moi de poser cette question, mais vous y allez comment?
Bah, j'y vais en taxi.
Ah oui, oui.
Parce que c'est même vous qui payez d'ailleurs, je crois.
Ah bah, nous payons la grève, camarade.
Il a la question, il connaît la réponse.
Pour ceux qui ont travaillé entre 18 et 20 ans, ce serait jusqu'à 2 ans de plus. Même quand on est costaud, ça ne passe pas.
Je vais faire une année de plus pour faire plaisir à certains. Ça me sert, c'est injuste.
C'est pas parce que je suis tombé dans la potion que...
Il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi cet espoir. On a suscité un espoir formidable dans ce pays. Et il faut absolument que ça se transforme en machine à victoire. Et ça, c'est extrêmement important dans l'unité, bien sûr. L'unité pour gagner. L'unité pour gagner.
Il faut que le gouvernement comprenne que ce n'est pas une posture de quelques dirigeants syndicaux. C'est le monde du travail qui aujourd'hui est opposé aux 64 ans. Et donc, si ce n'est pas entendu alors qu'on est parmi les manifestations les plus importantes de ces 25 dernières années, c'est qu'il y a quand même un problème.
Voilà pour le vu du jour. C'est un acteur sans exclusive. Définition signée du journaliste du magazine Du Monde, Grégoire Bizot. Partout. Tout le temps. Une moyenne de 3 à 4 films par an depuis presque 20 ans, au moins 2 pièces par saison, souvent une mise en scène. Sur un tournage, il apprend le texte d'une pièce ou écrit un livre entre 2 scènes d'une représentation. En coulisses, il lit un scénario. Et en voiture, il ne choisit pas entre répéter ou conduire.
Au sein de ton tuteur, enfonça le couteau et puis...
La salle de répétition est des plus exiguës, mais Denis Podalydès y travaille pourtant le grand art déclamatoire.
Je me permets de le remettre.
Avec pour maître Jean Villard.
Parce que y a, dans la voix, il parle d'enfoncer un couteau et l'effet obtenu par la voix elle-même.
Au sein de ton tuteur, enfonça le couteau et puis...
C'est effrayant ce que j'ai fait.
La salle de répétition est des plus prestigieuses et sous le buste de Molière, le pensionnaire se met cette fois en bouche ses propres tirades, signées Gogol.
Ne m'a pas laissé un sou. Je donnerai ma chemise pour une revanche. C'est juste par hasard si ça ne s'est pas rencontré.
Le travail, Denis, c'est votre grande affaire. Comment fait-il tout ça, se demandent beaucoup de vos collègues. Et quand on parle boulimie, vous dites non, de la curiosité.
Oui, il se trouve que quand on est à la Comédie Française, on travaille énormément. Et si on travaille en dehors de la Comédie Française, alors, évidemment, on est près de la saturation très vite, mais pas par boulimie, parce que différents projets m'intéressent et qu'on a pensé à moi. Quand j'étais jeune acteur, j'ai eu un sentiment au départ très, très inquiet. Je pensais que ce serait un métier que je ne pourrais pas faire. J'ai eu une très mauvaise expérience à mon tout début.
C'était une année précisément, je crois.
Oui.
1980.
Je suis sorti du conservatoire en 80. Oui, c'est ça. En 88, et les premières années n'étaient pas vraiment emballantes. Et j'ai fait un spectacle dont j'ai été viré.
Au bout d'un mois.
Voilà. J'ai raconté ça dans le livre.
L'adaptation d'Hernani.
Voilà.
Et puis, sur un tournage aussi, pardon, mais j'ai ri, c'était peut-être pas très chrétien, mais quand vous avez été oublié carrément sur le tournage d'un film.
Ah oui, 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 c'était un film grec, mais qui se tournait autour de la Méditerranée. J'ai été oublié. Alors je me disais, bon, ben, je ne suis pas fait pour ça. J'ai repris des études que j'avais un peu abandonnées. Donc ensuite, quand on a fait appel à moi, pour moi, la moindre des choses, c'était de dire oui, parfois même avant de lire quoi que ce soit. Je disais, mais oui, mais oui, mais évidemment. Mais votre scénario est formidable. Je n'avais pas lu. Donc j'ai eu tendance, effectivement, à accepter tout ce qu'on me proposait. Puis c'était même aussi une volonté de me dire, de toute façon, un acteur, c'est fait de briques et de broc. C'est le manteau d'Arlequin, c'est son symbole. C'est des tissus qui sont de toutes couleurs et de toutes origines. Et de toute matière. Donc je me disais, je vais me faire une expérience comme ça. Je ne rejetais rien d'avance. J'aimais bien Depardieu qui disait, les acteurs n'ont pas de mission. Il s'en prenait à un acteur très connu, il disait, lui il a une mission, c'est imbécile, il a une mission. Je me rappelle, il fulminait comme ça, c'était le tout petit tournage que j'ai fait avec lui, c'était sur les Misérables. Je tournais 2 heures avec lui, mais pour moi c'était 2 heures de rêve absolu, c'était magnifique. Et il me parlait de ça, il disait, toi, ils n'ont pas de mission, tu comprends, ils jouent, ça faut jouer, t'as raison, faut jouer. Et il m'avait dit, très sympathique comme ça, en me disant, mais bref, faire tout ce que tu peux. C'est pas que j'avais déjà commencé à faire un peu ça, alors c'est pas que j'ai suivi rigoureusement.
Oui, ça a confirmé le choix.
Mais voilà, mais maintenant je suis plus... Mais organisé en fait, si on s'organise, on peut faire beaucoup de choses.
Organisé, mais passionné. Et passionné pas seulement par la littérature et le théâtre. Il y a un peu plus d'un an, sur ce même plateau, Benjamin Laverne nous apprenait que vous étiez un homme qui s'intéressait à beaucoup de choses et parfois ça se télescopait avec votre jeu de scène, anecdote qu'il a raconté ici.
Denis Podalydès, qui est un fan de football, m'explique avec son album Panini, qui fait un concours avec Michel Villamoz et Jérémy Lopez, celui qui aura le premier son album
complet.
Je fais, ah, d'accord. Et à un moment donné, je regarde le retour vidéo. On voit ce qui se passe sur scène et je fais, Denis, tu n'es pas censé être sur scène là. Et donc, il fait 3 mètres en l'air, c'est Tex Avery. Il fonce dans ce fameux couloir qui relie le foyer à la scène. Il y avait Gilles David en scène qui faisait Hamlet, Hamlet, qu'il attendait, qu'il cherchait. Et donc, j'assiste à ça de Denis. Je passe de Denis qui
me montre ses photos.
C'est son album Panini. À Denis qui a un carton de livre et qui découpe et qui dit des mots. Des mots, toujours des mots. Il dit Shakespeare et personne ne peut imaginer ça.
Hamlet a été en retard en collant des footballeurs sur un album.
Oui, oui, bah ça, c'est la vie de coulisses. Elle peut être totalement à l'opposé de ce qui se passe sur le plateau. Si un peu de ces acteurs qui peuvent vraiment switcher comme ça très... Mais je ne me rappelais pas, et je viens de m'en rappeler.
Oui.
J'avais complètement oublié. Je me rappelle la voix de Gilles David qui appelait Hamlet.
Hamlet code des
minutes. Non, parce que je sais ce que c'est de la solitude. Parce que j'ai aussi des camarades qui ont raté leurs entrées. La solitude de l'acteur qui est tout seul sur la scène, attendant son partenaire pour enchaîner.
Ceux qui vous côtoient vous décrivent comme ayant toujours, non pas un album Panini, mais un livre à la main quand vous mangez à la cantine de la Comédie Française, dans l'ascenseur, les escaliers, sur votre vélo d'appartement, quand vous marchez dans la rue. Il vous arrive d'autres types de catastrophes, parfois en étant absorbé par des lectures
Non, parce que je lis le livre à hauteur d'homme.
Ah.
Ce qui fait qu'en fait, vous voyez, je vois ce qui m'arrive. Et donc, je contourne, Hop, ça... On peut même le faire en vélo. Hein.
Technique parfaite. Ah bon. Ce virus de la littérature, il a une origine et une adresse. Les 69 et 26 avenue de Saint-Cloud à Versailles, qui était le siège de la librairie Rua.
Oui.
Grande librairie, elle a même été citée dans un roman de Modiano, ouais. Écrivez-vous.
Ouais, oui.
Et c'était une librairie tenue par votre grand-mère, qui était votre refuge, votre tanière de l'adolescence.
J'ai énormément fréquenté cette librairie. Aussi, j'y ai travaillé, parce que c'était une librairie classique qui fournissait les livres scolaires. Et à la rentrée, il y avait beaucoup d'étudiants. Et c'était d'ailleurs très, très sympathique, très, très joyeux. Et j'adorais faire ça. Et le soir, je restais. Alors que ma grand-mère faisait sa caisse, et j'ai découvert par hasard d'ailleurs des grands textes comme ça qui ne m'étaient pas forcément destinés. Et j'ai connu là des heures. La lecture m'a inspiré des plaisirs si intenses que je recherche toujours ce plaisir pur de la lecture très souvent.
Ce qui fascine aussi vos camarades de jeu, c'est votre mémoire. Vous pouvez citer des vers, des répliques, des interprétations. Vous connaissez par cœur le soulier de satin que vous n'avez pourtant jamais joué. Non, mais... les monologues enregistrés de Gérard Philippe ou de Jean-Louis Barrault. Évidemment, on se demande où est-ce que vous stockez tout ça. Mais surtout, est-ce que parfois ce n'est pas encombrant de vous souvenir de tout parce que vous êtes hyper amnésique?
Non, je me souviens, on me prête beaucoup plus de mémoire que je n'en ai. Ah. Le soulier de satin, je connais 3-4 versets, mais je connais très bien la pièce. Je la connais, je sais les scènes, etc. Mais par cœur, non. Ah non. Et puis j'oublie, je vieillis, ça disparaît. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est les premiers textes appris qui reste, officier, compagnon d'armes, homme qui respirait vaguement autour de moi dans l'obscurité et qui tous avaient entendu parler de la lettre à Rodrigue. Bon, ce texte-là, je ne l'ai pas relu depuis 30 ans et il est là. Comme on sait les paroles d'une chanson comme Au clair de la lune. De Beyoncé. Chantait Beyoncé, on les sait et ça reste. Alors que les textes que j'ai appris l'an dernier, il y a 2 ans, je les ai déjà oubliés.
Vous avez tourné, Babette l'évoquait, dans plus d'une centaine de films, au rythme de 3 ou 4 par an. Vous avez envie de plus de premiers rôles, mais avec quel type de metteur en scène? Avec qui vous auriez envie de tourner?
J'ai des grands rôles qui m'ont donné des satisfactions énormes, des premiers rôles qui m'ont parfois un peu déçu, c'est arrivé, donc... je sais pas, hier, tiens, je montais mon escalier en allant me coucher, j'ai pensé à Nicolas Parizer.
Ah oui.
Je dis, tiens, j'aime bien ce cinéaste. Voilà. Mais vous voyez, je vous le dis parce que j'y ai pensé hier soir. Généralement, je ne dis pas. Je préfère qu'on m'appelle parce que je veux pas. Je n'aime pas quémander. Je n'aime même pas réclamer. Même ce qui m'est dû, je ne le réclame pas. Donc, je préfère les. Et surtout, il y a des rôles que j'ai adoré jouer. Je m'y serais jamais projeté. J'aurais jamais pensé qu'on me proposerait un jour de jouer Nicolas Sarkozy. J'ai adoré jouer Nicolas Sarkozy. Donc je préfère ne pas faire de suggestions et arrive ce qui doit m'arriver.
Vous aviez lu le scénario quand même, pardon, avant de dire oui à Nicolas Sarkozy?
J'ai fait... Oui, il me l'avait passé. Je ne me rappelle plus très bien. Ah bon. J'ai fait les essais. Mais tout de suite, en fait, dès qu'il m'a appelé pour ça, je lui dis ça, je veux le faire. Ça, c'est pour moi. Pensant, c'est curieux parce que je...
Oui.
Mais voilà, un instinct. Une sorte d'instinct d'acteur qui dit ça.
En tout cas, nous, on peut passer un message aussi bien à Nicolas Parizer qu'à tous les autres. C'est que pendant les castings, vous ne vous économisez pas.
Chacun un péché, hein. Bon, c'est genre un film des hommes et des dieux, mais version très trash, donc n'hésitez pas.
J'ai adoré le film, mais...
Ok, Denis, calme-toi un peu. Ouais, on se concentre, on y va.
J'ai étranglé une personne âgée dans son sommeil réparateur.
Hier, j'ai ôté la vie à une dizaine de bambins en les noyant dans un sac.
Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai volé 350 grammes de maïs bio à un ancien ami de la famille.
Denis, une seconde, c'est pas trash, ça, c'est trop gentil. Non, dis-moi vraiment un truc choquant, quoi, comme les autres.
Et là, je me rends compte que j'avais une paire de chaussettes complètement dépareillées.
Non, mais Denis, putain, mais c'est pas trash, ça. Je veux un truc choquant, bordel.
Ah ouais, mais mon vieux...
Non, reste là.
Là, c'est bon. Et j'achète un château en Espagne, un hôtel rue de la Paix, et j'achète un monde où tout le monde gagne.
Moi, je sais, mais ça, c'est une chanson de Zazie, donc me prends pas pour un con, ok?
Ça, c'est dans la série casting avec Pierre Ninet.
Oui, avec Pierre Ninet, oui. Mm. Ouais, c'est drôle, c'est François Sigil qui est à côté.
Vous passez encore des castings?
Oui. Bah oui. À la Comédie Française, on fait des auditions. Et moi, je suis prêt, quand un réalisateur ne me connaît pas, j'avais passé un casting avec Anneke pour faire un tout petit rôle, mais j'ai adoré ça. J'ai tourné 2 jours en Autriche. C'était absolument merveilleux. Une scène magnifique avec Juliette Binoche. Je racontais une histoire drôle, un peu longue. Et on a fait ça en 3 prises. Et c'était voilà, 2 jours en Autriche. Il nous a accueillis dans sa maison. On a déjeuné avec lui. C'était mais merveilleux. Ah, ça vaut des très
grands. Ça vaut des grands rôles.
C'est une grande expérience, ouais. Ouais, ouais.
Et parfois, on dit à Denis Podalydès de la Comédie Française, à la Comédie Française, non, le casting était mauvais, c'est pas pour toi, Denis. C'est
arrivé. J'ai manqué une audition avec Robert Wilson. Bon, je l'avais pas intéressé plus que ça. Bon, ben voilà.
Bon.
Vous en êtes revenu, ouais. Tout le monde. Bah oui, oui, oui. Non, j'avais adoré cette audition. Cette audition m'a beaucoup. J'ai un souvenir, je pourrais vous la raconter. Si on avait une petite heure devant nous, je vous la raconterais. C'était magnifique.
Mais j'aime bien parce que sur votre CV, à côté de la filmographie, il faudra rajouter les meilleurs castings de Denis Podalydès.
Oui, mais j'en ai passé plein.
Ça peut faire partie de la filmographie, pardon.
Je ne peux pas savoir le nombre de castings que j'ai fait. Et avant, comme mon frère a fait Versailles Rive Gauche, là, d'un seul coup, j'ai fait du cinéma. Mais avant, j'ai fait, je ne sais pas combien. Casting, et une fois je me rappelle d'un casting, j'y suis allé un jour, 3 jours après j'y retourne, je vois les mêmes personnes, mais les mêmes personnes, et on me redemande exactement la même chose, et je me rends compte que les gens 3 jours après ne se souvenaient pas tout de moi. Oui. Donc, je n'imprime pas la caméra. Je suis comme dans le film de Woody Allen, l'acteur flou, l'acteur qui n'imprime pas. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas de physique. J'entendais beaucoup cette expression.
Ouais.
Il n'a pas de physique, tu comprends? Il n'a pas de physique, il n'a pas de regard. Je disais pas, on n'entendait pas forcément ça de moi, mais je l'entendais des autres et je me le rapportais à moi. Et c'était, bon. Ça tombait comme ça, il n'a pas de physique.
Vous avez un physique et vous avez de la poésie dans La Grande Magie qui est en salle mercredi prochain, signé Noémie Vlovsky avec Sergi Lopez, François Morel, Rebecca Marder, Damien Bonnard. C'est formidable.
Formidable.
Voilà.
Ah oui, c'est formidable.
Et une comédie musicale en plus.
Une comédie musicale, il y a des chansons de Feu Chatterton, certaines qui sont dans le dernier album, mais qui avaient été écrites d'ailleurs pour ce film, qui sont absolument magnifiques.
Magnifique.
Et Célidan disparu, on le conseille très, très chaleureusement. C'est toujours disponible aux éditions Mercure de France. On passe à table, on va vous présenter une femme formidable qui écrit un récit bouleversant, Nicole Bacharan, mais tout de suite Zoé Bruno, j'étais à ça.
J'étais à ça.
Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures?
Je suis une personne maléfique. Je fais le mal autour de moi.
Qu'est-ce que t'as encore fait?
C'est une hybride. 4 cylindres en ligne avec alimentation atmosphérique, injection multipoint.
Tu sais que Victor, il adore ça.
294 cm3.
Oh.
T'en dis quoi?
Bah rien, t'en dis rien. Qu'est-ce qu'il veut que t'en dise?
Disposition du moteur transversal à l'avant.
Boîte automatique avec variation continue.
Alors, tu sais que Victor...
Non, mais il faut que je la montre. J'ai fait de cet appareil photo. Je t'embête pas plus. Tu sais quoi, ma pupus?
Je fais
un petit tour au Wawa et après...
Je t'emmène faire un tour.
Mais qu'on en finisse, mon Dieu. Papa!
Papa.
C'est horrible. J'ai souhaité ta mort et une minute après, tu t'es écrasé comme une merde.
Ah oui?
Je me le suis dit, hein. Je me le suis vraiment formulé. Qui crève. Qui crève. C'est ça que je me suis dit.
Ah, quand même.
Bah enfin, t'aurais pu commencer par ça, t'es horrible.
Bah voilà, c'est ce que je te disais, je suis une personne maléfique. Oh, j'étais à ça de voir mon vœu s'exaucer.
Et moi, j'étais à ça d'avoir une crise cardiaque. T'as failli tuer papa, sorcière.
Pardon.
Cher Denis, heureuse de vous accueillir à la table de C'est à vous aux côtés de Bertrand Chameroy et de l'historienne spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureuse d'évoquer avec vous l'histoire de votre mère, Ginette Guy, engagée dans la résistance alors qu'elle était encore une toute jeune fille. Histoire que vous racontez dans cet ouvrage, la plus résistante de toutes aux éditions Stock. On en parle dans un instant. Laissez-moi juste vous présenter Loïc Lourmière, le chef du Bel Ami à Étretat. Clac, clac, dépêchez-vous. Non, pardon.
On présente.
C'est extrêmement désagréable. Oui, que mangeons-nous ce soir?
Du bœuf, donc dans la partie du faux filet, avec une sauce donc dans l'esprit du vite et le tonato, anchoyade, capre, citron vert, du persil, du chiseau.
Et si c'est aussi bon que c'est beau, on va se régaler.
Bon appétit. Voilà.
Moi, j'en suis à la moitié déjà.
Merci beaucoup, Charles-Louis.
Bon appétit, à demain.
Ce livre, Nicole, a d'abord eu un autre titre. Il s'appelait Jean Obermann, parce que l'engagement de votre mère dans la résistance, ça a d'abord été un acte d'amour.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. En fait, ma mère, quand elle avait 18 ans, est arrivée à Toulouse et elle s'est retrouvée par le hasard de la vie et du travail dans un milieu totalement juif en 1942. Et ses copains étaient juifs et elle a rencontré ce garçon, Jean Obermann, dont elle est tombée folle amoureuse, qui est resté d'ailleurs le grand amour de sa vie, qui était magnifique, follement brillant, follement séduisant, pas raisonnable du tout. Mais c'est vrai qu'à travers lui, elle a été témoin des brimades, des menaces, et puis du filet qui se resserrait en quelque sorte, des arrestations, des disparitions.
Et elle a commencé par lui sauver la vie ?
Elle a commencé par lui sauver la vie, pas tout de suite,
ouais,
quoi mais... qu'il ait fait beaucoup de choses qui auraient nécessité de lui sauver la vie, mais elle a commencé par ouvrir sa porte, tout simplement. Dans Toulouse, il y avait des rumeurs de rafles, souvent, notamment à l'été 42, quand il y avait à Paris la grande rafle du Veldiv, il y a eu des rafles aussi dans le sud, et ma mère, qui avait 18 ans, on lui disait, bah, tiens, il y a un tel, ce soir, il n'a pas envie de rentrer chez lui. J'ai deux copines qui ne sont pas à l'aise. Et donc, enfin, il y avait un défilé de juifs qui dormaient chez elle sans qu'elle se pose la moindre question. Au sens qu'elle savait que ça pouvait être dangereux, mais elle n'a jamais senti qu'elle avait le choix. C'était évident.
Il est extraordinaire, ce titre, La plus résistante de tous, parce que ce n'est pas seulement un hommage à votre mère, c'est une phrase d'un officier de la Gestapo, puisque vous avez retrouvé dans les archives des Bouches-du-Rhône l'interrogatoire de votre mère, où on peut lire « En réalité, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, car elle n'a rien indiqué du tout ». C'est écrit par la Gestapo.
Oui, c'est écrit par la Gestapo, et je vous assure que quand vous trouvez ça sur votre propre mère, et j'ai trouvé ça il y a 2-3 ans, c'est au-delà de bouleversant, c'est vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds, et ça a changé l'orientation de ce livre que j'étais déjà en train d'écrire. Marseille était connue pour sa Gestapo et les liens avec la pègre, et le patron, c'était un certain Delage, il avait un pseudonyme, il parlait français comme vous et moi, j'ai envie de dire, et il a opéré des grandes opérations de répression à Marseille, particulièrement à l'été 44, c'était très très féroce, et ma mère a été prise dans ce coup de filet, donc cette gamine, elle avait là tout juste 20 ans, et elle est inscrite dans les rapports de la Gestapo, ce que Delage n'a pas eu le temps de brûler au moment de leur fuite après le débarquement des Alliés en Provence. Et donc, il a été interrogé sur toutes les personnes listées, et parmi elles, Ginette Guy, dont on lui a demandé quel a été son sort, qu'est-ce que vous avez décidé. Et il a dit, ben je voulais dire qu'elle avait été envoyée en Allemagne, mais que je ne l'avais pas fusillée, parce qu'elle nous avait rendu des services, mais en réalité, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier. Et ma mère m'avait raconté ses échanges avec le patron de la Gestapo, parce qu'elle a essayé de le retourner, de le balader, mais elle ne m'avait jamais rien dit de ce qui s'était passé, physiquement passé.
Elle jouait la gamine niaise.
Absolument, la petite énamourée, mais j'avais rendez-vous avec un garçon, mais il m'a posé un lapin, mais moi je ne peux rien vous dire. Oui. Mais aussi elle lui a dit, mais enfin vous ne voyez pas que vous avez perdu la guerre, vous pourriez négocier, l'Allemagne est foutue de toute façon.
Parce qu'elle était très jeune.
Et puis vous avez une famille, vous ne voudriez pas qu'on traite votre famille comme ça. Enfin, elle a vraiment tout essayé.
Et ce livre est impressionnant de précision. Tout y est vrai. Vous l'écrivez comme un roman, mais en faisant parler votre maman à la première personne. Vous l'avez perdue il y a 30 ans.
Oui.
Et vous dites que ça n'a été pas compliqué du tout de vous mettre dans sa tête.
C'est vrai, parce que bon...
Et on le sent dans le
livre. On était très fusionnels avec ma mère. Et en plus... quand je me suis replongée dans le monde de son enfance, de son adolescence, c'est quand même un monde que j'ai connu. Mes grands-parents, dans le Midi, je connaissais les lieux, j'y avais passé du temps. Et par le tempérament de ma mère, à la fois quelqu'un de vraiment très brillant, mais très drôle et très intransigeant sur le plan moral, finalement. Quand moi, je l'ai connu, évidemment, quand j'étais sa fille adolescente et plus tard, très amoureuse. Ça a quand même été le grand moment de sa vie. Elle parlait beaucoup plus de son histoire d'amour avec nous, ses filles, que de ce qu'elle avait pu subir de très dur. Non, ça n'a pas été difficile de me mettre dans sa tête.
Mais en fait, vous l'avez évoqué à l'instant, elle ne vous a jamais dit la dureté, l'absolue violence qu'elle a subie.
Elle ne m'a jamais dit, et moi je ne l'ai jamais demandé. Et en écrivant ce livre, j'ai compris que je ne voulais pas le savoir pendant toute ma vie, puisque je ne lui ai jamais posé de questions. Et c'est phénoménal de savoir, de réaliser que j'étais incapable d'encaisser ça. Elle ne me l'a pas dit, j'imagine, parce que d'abord, cette génération n'en parlait pas, mais aussi certainement pour me protéger. Et moi, ce n'est pas que je comprenais pas potentiellement, c'est que le déni psychologique le plus radical qu'un psy vous expliquerait beaucoup mieux que moi.
Et là, le rapport est tombé.
Oui, exactement. Là, j'ai su la vérité. Et si vous voulez, j'avais les mots qu'elle avait échangés avec Delage, et le contenu de ce qui s'est des gestes. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont témoigné sur ce qu'ils avaient subi, et ce Delage opérait toujours de la même manière. Donc, j'ai rien eu à imaginer.
Ce livre touchant, c'est aussi l'occasion pour nous de comprendre ce lien très fort qui vous lie à l'Amérique, plus particulièrement aux États-Unis. Vous êtes la spécialiste en France des questions américaines. Il y a une scène dans le livre, cette marche de 5 km à la libération de Ginette, de votre mère qui applaudit les sauveurs américains. C'est bouleversant. Elle gardera toute sa vie ce sentiment que c'est l'Amérique qui s'est tournée vers la liberté, qui a apporté la liberté en France. Et ça vous a accompagné dans votre éducation, dans votre jeunesse.
Ah mais complètement. C'est vraiment, il y a un lien direct entre ce moment que ma mère a vécu à la libération et ce que j'ai pu faire moi-même par la suite. Et je me suis rendu compte à quel point, souvent, quand on parle des États-Unis qui vendent tout au nom de la liberté en continuation, la liberté, on vous dit, oui, mais c'est très compliqué, ça couvre beaucoup de choses, etc. Oui, c'est très compliqué comme concept philosophique. Mais quand on a perdu la liberté, mais c'est le concept le plus simple du monde. Et c'est vrai que cette scène où je décris l'arrivée des Américains par les yeux de ma mère, alors là, pour le coup, je n'ai pas eu besoin d'imagination, parce que les phrases qui sont dans ces quelques pages, elle me les a dites, elle me les a répétées, comme ces garçons, ils étaient beaux et sympathiques, et ils marchaient d'une manière détendue, et il n'y avait pas de bruit, ce n'était pas les bottes ferrées qu'ils avaient entendues pendant des années. C'est vrai, ma sœur et à moi, elle nous a dit, bon, ben, si tout va mal, il reste l'Amérique. Et c'est vrai que quand on voit l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas parfait l'Amérique, mais on est encore bien content qu'il soit là.
Nicole Bacharan, la plus résistante de toutes, et l'émotion qu'on entend à votre voix, on la ressent en vous lisant. Je me permets de l'offrir de votre part à Denis Podalydès, et je vous offre « Célidant disparu » de Denis Podalydès. Merci. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir accepté ce soir notre invitation. De la littérature encore ce soir en direct sur France 5, puisque Augustin Trappelard est en direct avec nous pour nous parler du programme de ce soir, de la Grande Librairie, cher Augustin.
Salut Babette, une rencontre au sommet ce soir entre la journaliste Florence Aubenas et le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio. Mais aussi je reçois quand même Émile Ajar, La vie devant soi, tout ça, ça vous dit quelque chose? Ou plutôt, et c'est intéressant, Paul Pavlovitch qui a été son visage avec la complicité de Romain Gary. Et puis enfin, un mangaka, ça c'est pour vous faire plaisir, Hajime Isayama que j'ai rencontré à Angoulême, l'auteur de L'attaque des titans, ça va être fou, c'est à 21h sur France 5, évidemment, et c'est en direct, vous le voyez à ma tête.
Là, vous êtes maquillée quand même, rassurez-moi.
Jamais, je ne me maquille jamais.
à tout de suite, Augustin. À tout de suite, Augustin. Le temps des actualités de Bertrand.
Bonsoir à la une de ce.
Monsieur Bachar.
Non, ça y est, enfin.
Il est fini.
On est en février. Le mois de janvier est terminé. Ce mois qui était interminable. Ça y est, on n'en voyait pas le bout. Nous sommes en février. Calmez-vous quand même en régie. On n'a pas non plus gagné la Coupe du Monde. Pour autant, à la une de ce premier février. Non, c'était écrit. C'est moi. Non, jamais. À la une de ce 1er février du sport et la sobriété qui n'épargne personne. Pas même la Ligue des Champions frappée de plein fouet par des restrictions budgétaires. Les trophées sont beaucoup moins prestigieux. Je ne sais pas si les mains sont immenses ou le trophée tout petit, mais la célébration est tout de suite moins... Quoi ? Autant pour moi. Autant pour moi, on me signale qu'il s'agit des images du voyage papal. Le pape François qui est en voyage en République démocratique du Congo et qui a eu droit à de bien jolis cadeaux. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la belle croutasse. Non, merci, vraiment, fallait pas. C'est super sympa, les gars. Est-ce qu'on a des nouvelles du tableau ? Eh bien oui, bah, avis aux amateurs, il est en vente sur le Bon Coin pour 1 euro. Allez-y, faites-vous plaisir. Mise en vente par un dénommé P. François. Et si à l'ABC, on a pour dicton, quand on n'a pas d'idée, on a des perruques. Nous avons découvert au cours de ce voyage un autre dicton, quand on est en plein cagnard et qu'on n'a pas de chapeau, on a un cahier. Pensez-y. Ah, on appelle, et à droite, Joe Biden vivant. Joe Biden. Une image assez rare. Social maintenant, ce matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était l'invité de Thomas Soto, qui tenait vraiment à lui faire dire ce qu'il voulait entendre.
L'âge légal de départ à 64 ans, est-ce que ça reste non négociable ? Est-ce que vous pouvez reculer sur ce point ? Est-ce que cet âge reste non négociable au lendemain des manifestations ? Je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Là, moi, je voudrais savoir la réponse à la rue d'hier. Est-ce que l'âge de 64 ans reste non négociable ? Très fort, on dit oui, non. Est-ce que l'âge de 64 ans est négociable, oui ou non ?
Mais dis-le ! La réforme des retraites, au cœur des débats à l'Assemblée, faisons tout de suite un point sur l'avancée des travaux.
Donc depuis lundi matin, nous avons examiné 360 amendements et il ne nous en reste plus que 5143 amendements à examiner.
Tranquille.
Ah oui, les députés qui découvrent donc le concept de pénibilité au travail. On sent que la députée Renaissance Fadila Khattabi, qu'on vient de voir, qui préside les commissions, commence à être en batterie faible au niveau patience.
Vous êtes peu nombreux, mais tout aussi bruyants. C'est un brouhaha permanent et c'est pénible.
C'est qui nous regarde ?
Honteux, monsieur le député, honteux. S'il vous plaît, les Français nous regardent, s'il vous plaît. On s'écoute. On s'écoute. S'il vous plaît.
Je, même à la fin, elle y croit. S'il vous plaît, elle n'y croit plus elle-même. Non, vraiment, elle n'en peut plus.
Je vais finir par être vraiment une députée dépitée. Hein.
Hello.
Je l'ai. Députée, dépitée. Bon, après... Non, c'est hyper vexant. Je les bosse toute la journée. Non, faut la comprendre. Hein. Faut dire qu'elle a affaire à une classe de CE2. Il y a tous les types d'élèves. Il y a les faillots.
Monsieur Bazin.
Oui, mais j'aimerais bien, mais...
Monsieur Léaumont, s'il vous plaît, monsieur Léaumont.
Il y a la NUPES et l'ERN qui vont convoler en os, là.
Voilà. Il y a les autres, là-bas, là, ils font du raffu, maîtresse. Puis il y a les petits malins.
Alors, il faudrait peut-être vous en rendre compte. Très bien.
Bien envoyé. Et puis, il y a les agités, pour ne pas dire les lourdingues, ceux qui pensent qu'une commission est un concert de Beyoncé.
Très bien. On évite de s'applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas dans un meeting ni au théâtre. On évite de s'applaudir.
Mais la NUPES, quand on leur dit de ne pas applaudir, ils font comme nous, quand on avait 7 ans. Donc, OK, on ne peut pas applaudir, mais ça, on peut le faire, en revanche.
Excellent.
Non.
Et sur les vidéos.
Ça la fout mal sur les vidéos, oui, je confirme et je rappelle que ces séances sont filmées et sonorisées. Voyant que tout ceci était compliqué, la CPE a donc proposé un temps calme.
Mes chers collègues, on ouvre les chakras, on respire un coup. Ou alors on va boire un coup.
Visiblement, ils sont beaucoup plus open sur la seconde option.
Celles et ceux qui veulent bavarder, papoter, vous pouvez sortir.
Voilà.
J'ai oublié le nombre d'amendements qui restent à examiner, mais ça s'annonce très long, cette petite affaire.
Ils ont arrêté sans avoir été allés au bout du texte.
Merci, Patrick.
Ce soir.
Eh ben voilà. Paf.
En vrai, c'est vrai.
Et on applaudit, Patrick.
Non. J'aimais bien ce compteur. Bon. En bref, petit tour des JT très rapidement et ce parti pris artistique du JT de 13h qui, pour illustrer un sujet sur les prix de l'énergie, a calé un plan d'animal qui crie au beau milieu, comme ça, sans aucune raison.
Comme lui, plus de 500 000 Français ont souscrit à une nouvelle offre chez EDF depuis l'été dernier.
Qu'est-ce que c'est que ce plan?
Voilà, donc on peut caler des plans de chats qui miaulent au beau milieu d'un sujet sur les prix d'énergie. Eh bien, première nouvelle, il me tarde de voir les prochains sujets du 13h.
Entre-temps, certains secteurs ont aussi décidé d'actions ciblées. Comme par exemple dans les raffineries.
Les contrats d'électricité peuvent être résiliés à tout moment, sans frais. Le bouclier tarifaire s'applique pour l'instant jusqu'à la fin de l'année.
Les retraites maintenant.
Oui. Alors qu'au même moment, sur TF1, le 13h nous prodiguait de sacrées astuces pour cuisiner.
Les oignons nous ont tous tiré des larmes, un jour ou l'autre. Et chacun a sa technique pour éviter de pleurer. Parfois un peu radical.
On ferme les yeux.
Oui. Ah oui, effectivement, on pleure pas, mais... On referme ces actualités avec un dernier détour par la grève d'hier et les chiffres de la manifestation. 500 000 manifestants à Paris selon la CGT. Voici les autres chiffres.
On a les chiffres du nombre de manifestants selon la préfecture à Paris. 87 000 aujourd'hui.
Le cabinet Occurrence, qui compte à Paris les manifestants, lui, ça vient de tomber à la demi-seconde, dit 55 000 manifestants à Paris.
Voilà, donc entre 500 000 selon les organisateurs et 55 000 selon le cabinet d'intelligence artificielle Occurrence, ça fait un petit fossé. Qui a créé cet outil? Exclusivité ABC, nous avons pu rencontrer le patron d'Occurrence.
Bonjour, je suis le créateur du cabinet Occurrence. Laissez-moi vous présenter ma petite équipe aujourd'hui. Nous sommes avec Guitoun, Michel, Catherine et Sylvie. Salut la Dream Team.
Salut.
Alors, on en est combien aujourd'hui?
32.
Ouais, 32.
Combien?
32.
Bravo.
L'info continue demain. Bonne soirée.
Bravo Bertrand. Les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous. Merci, chère Nicole. Merci, Rémi. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Augustin Trapenard, la grande librairie. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs, on sera là demain à 19h en direct. D'ici là, on vous embrasse. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.